Okay. Bonsoir à tous. Merci de vous être joints à nous de manière virtuelle. Donc aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Dr. Olney, qui est hémato-oncologue au CHUM, directeur du programme, en fait, du département d'hématologie de médecine transfusionnelle, et aussi directeur du laboratoire de cytogénétique maligne, membre émérite de l'Association Lymphome Canada et professeur adjoint à l'Université de Montréal. Donc, merci, Dr. Olney, de vous être joints à nous, malgré tout ce qui se passe. Ouais.
Ah non, mais regarde, c'est un plaisir d'être là et de partager la passion pour l'hémato-onco avec vous, là. C'est une boîte noire pour beaucoup de personnes. Vous l'avez en morceaux, vous avez un peu d'hémato avec vos APP, mais ça reflète tout petit fragment de comment qu'on peut gérer la pratique en hématologie ou en oncologie médicale. Et je suis heureux d'aller explorer ça avec vous ce soir.
Parfait. On espère que ça va aider à répondre à certaines questions ce soir. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez juste nous faire part un peu de votre parcours et de votre pratique actuelle?
Donc, des questions ouvertes, là, que c'est comme vous avez été formé pour faire ça. Alors, c'est superbe de voir ça. Alors, évidemment, moi, j'ai fait un bac avant en immunologie et puis, je ne savais pas si oui ou non je rentrais en médecine. J'ai beaucoup de... Mes parents étaient tous les deux dans la séance de santé. Et puis, donc, ça m'a pris du temps à décider, mais finalement, j'ai compris que c'était vraiment pour moi. Au début, là, j'étais probablement comme beaucoup du monde qui vont écouter ce enregistrement. Je savais pas où je m'en allais. J'aimais beaucoup de ce que je faisais. Et c'était très difficile de finalement choisir une sous-spécialité. Même, j'avais de la misère initialement de savoir si je voulais être chirurgien ou médicus. Ça peut aller jusqu'à loin, aussi loin que ça. Finalement, j'ai compris que j'aimais mieux les défis qu'on a en médecine, de vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, tandis que les chirurgiens, c'est plus des acteurs et il faut connaître vraiment bien l'anatomie et avoir un très bon jugement de quand est-ce que tu amènes quelqu'un aux salles d'op. Mais la médecine, c'est vraiment des défis, des casse-têtes à essayer de comprendre, de remettre des choses distinctes ensemble. Ma formation m'avait évidemment préparé beaucoup avec ce que j'avais fait dans mon bac, de comprendre le système immune. Puis finalement, j'avais lu un livre quand j'étais au secondaire qui était pour moi un de mes cours de religion et c'était sur une mère qui racontait son expérience avec son fils qui avait une leucémie. Je m'en rappelais même pas que j'avais lu ce livre-là parce que, comme j'ai dit, quand je suis rentré en médecine, tout était nouveau, tout était excitant et j'ai commencé avec des différents stages en préclinique. Je pense que j'ai fait la radiologie en premier, puis j'ai tombé sur un stage d'onco-médical qui était de 2 semaines, que j'ai fait avec un oncologue médical merveilleuse qui était rayonnante. Et puis évidemment, on ne voit pas ça, hémato-onco-médical, comme une spécialité qui nous donne plus d'envie et de c'est vraiment, c'est un peu un cliché que les patients nous apportent plus que ce qu'on donne, mais c'est vraiment inspirant de les voir. Et puis, ce que j'avais remarqué, c'est que les patients avaient une relation incroyable avec cet oncologue médical. Un patient qui était très malade dans son lit d'hôpital, à rentrer dans la chambre, ça changeait le patient. Tu sais, j'étais l'externe qui la suivait, puis je regardais le patient qui ne me regardait pas, qui regardait son médecin, et sa face s'est illuminée, et puis il a commencé à voir ça. Donc, ça, c'était une première introduction. J'ai fait mes autres stages obligatoires. Et finalement, là, j'ai trouvé que l'hémato-onco nous permettait de vraiment comprendre complètement une petite spécialité. Ça touchait tous les systèmes d'organes. Et en plus, on avait du laboratoire qui allait avec ça. Donc, on avait nos propres réponses, là. On n'était pas nécessairement dépendant complètement sur les radiologues ni les pathologistes. On voyait le frottis. On comprenait des fois tout de suite qu'est-ce qui se passait. Et finalement, c'était facile à prendre la décision de rentrer en hémato-onco et avec absolument aucun regret depuis ce temps-là. J'adore ce que je fais et c'est vraiment ça résumait à trois éléments, là, t'sais. Donc, je pense que la science hématologique, là, il est vaste, vaste, vaste. On a du bénigne et du malin dans cette pratique-là. L'onco-médical, c'est un ajout naturel avec ça. Les relations avec les patients sont très, très intenses et privilégiées. Et c'est vraiment ça que j'imaginais un médecin, là, c'est d'avoir ces liens de confiance, d'être capable de parler de choses très, très, très sérieuses qui pourraient être dévastateurs et de faire rire le patient après ça et de continuer et puis d'être vraiment inspiré par leur vécu avec ça. Alors, donc, c'est sûr que l'hémato-onco, puis comme j'ai dit, c'est un domaine scientifique qui est quand même tout à fait ouvert. Et puis, les connaissances là-dedans, on peut laisser notre marque. Il y a encore des gènes et des traitements à venir et il y a beaucoup de place pour du monde. On commence à déchiffrer toute la génétique associée avec ça. Et puis, c'est une spécialité avec plein de potentiel et toutes les découvertes qu'on fait en biologie moléculaire sont directement appliquées à ces domaines-là.
Merci beaucoup pour votre réponse. On va poursuivre avec la prochaine question.
Oui,
donc,
certain.
C'est quoi les qualités requises pour devenir hémato-oncologue? C'est quoi qu'un hémato-oncologue a de plus qu'un autre spécialiste? C'est quoi les qualités requises?
Bien, regarde, ça, c'est un. Je pense que l'encouragement de. Comme j'ai dit, la relation avec le patient et puis de ne pas avoir peur des émotions, entre autres, c'est une des choses, et de voir le. Nous, comme on courtoie des maladies très sérieuses et souvent, dès la rencontre première avec la patiente, on sait que la relation va être temporaire parce que le patient a une maladie qui va être traitée à but palliatif. Et puis, il faut être comprendre et confortable que notre rôle, c'est pas toujours de guérir, mais d'accompagner et de permettre le patient de se rendre le chemin qu'ils ont encore à faire le meilleur possible. C'est sûr qu'il y a un besoin d'être capable de bien maîtriser les sciences de base. Donc, la biologie moléculaire et les voies de signalisation, les mécaniques cellulaires sont exploitées dans notre quotidien. Et il faut être capable de comprendre ces éléments-là. En médecine, il y a plusieurs spécialités qui ont vraiment des éléments de physiologie qui sont très importants. Si on pense à cardiologie, en pneumo, en néphro, là, il y a vraiment des choses physiologiques. Nous, on rentre plus loin que ça. C'est vraiment la biologie moléculaire. On va exploiter l'enzyme qui est dérégulée dans un cancer et de comprendre cette enzyme-là, ses impacts en aval et en amont pour être capable d'intervenir et de comprendre les limitations. Donc, il faut être un bon interniste pour commencer. Il faut avoir l'envie de vraiment plonger dans la minutie de certaines pathologies. Il faut avoir des excellentes des relations sociales et d'être capable d'être confortable avec des choses qui devraient être inconfortables parce qu'elles sont inconfortables. Et puis, il ne faut pas, par contre, se laisser derrière trop parce que ça prend une résilience. Les patients n'ont pas besoin d'un autre proche pour leur pleurer. Ils ont besoin d'un professionnel pour leur guider à prendre des bonnes décisions et de vraiment mettre en valeur les choses qui sont importantes. Il y a aussi tout l'aspect bénigne, donc l'hémato peut être épeurant pour ça. Et par contre, c'est des grandes maladies. D'avoir une thrombose, que ça soit, on le voit un petit peu avec AstraZeneca, la peur d'avoir une thrombose est clairement exagérée dans les médias, mais on voit que ça touche du monde, de savoir qu'un petit caillot quelque part peut vraiment avoir un impact si majeur sur la vie de quelqu'un. Alors, même si ce n'est pas aussi mortel que certains cancers qu'on va aborder, on joue quand même avec du feu quand on est même en hémato-bénigne. De ne pas avoir assez de plaquettes, on peut avoir des saignements majeurs. De ne pas avoir assez de globules blancs, on pourrait avoir des infections significatives. De trop coaguler, de ne pas coaguler. C'est vraiment, comme j'ai dit, les introductions qu'on a faites dans les APP nous donnent un aperçu, mais c'est sûr que ça ne nous donne pas toute l'histoire. Quelqu'un qui aime vraiment maîtriser des choses, un hématologue est appelé à regarder des frottis. Donc, il faut être à l'aise avec ça. Ce qu'on nous dit, puis ce que vous devez vous dire quand vous essayez de choisir votre sous-spécialité, le quotidien, de régler des choses banales comme une anémie qui est chez une jeune femme qui a des saignements menstruels trop abondants, puis de vraiment faire le tour de la question, puis de voir, bon, c'est juste un saignement normal versus, oups, c'est une coagulopathie, c'est une maladie de von Willebrand, versus, oups, c'est la présentation d'une leucémie aiguë. On peut tout voir ça dans un même scénario que le patient arrive. Il faut être à l'aise de dire, bien, c'est un saignement menstruel, une dysrégulation hormonale ou autre, et d'être content d'être capable de fournir un peu de fer, peut-être modifier l'environnement hormonal ou la diriger vers un gynécologue qui peut faire ça et d'être satisfait que tu as vraiment fait un impact et un bien dans ça. Donc, c'est toutes sortes de caractéristiques qui sont là-dedans. Il faut aimer un peu des casse-têtes, là, puis de mettre des petits morceaux, des indices de gauche à droite ensemble. Mais ça, c'est vrai pour la majorité des sous-spécialités en médecine interne. Donc, déjà, si vous êtes en médecine interne, vous pensez déjà un petit peu plus comme ça. Puis d'être capable de relever ces défis, c'est vraiment... C'est dans ces zones-là que je dirais qu'ils sont importants. Par contre, on a besoin de fondamentalistes, de chercheurs qui veulent pousser jusqu'au bout, mais qui vont être capables d'avoir un pied dans la clinique pour ne pas perdre la notion de pourquoi ils font ça. Et on veut avoir du monde qui sont vraiment obsédés par un petit fragment de l'hématologie, que ce soit la coagulation, que ce soit la thrombose, que ce soit un lymphome. Donc, c'est vraiment une spécialité qui est assez, malgré sa spécificité, c'est quand même assez polyvalent.
Et justement, dans les exemples que vous avez donnés, vous avez bien souligné l'aspect dual de la spécialité, donc l'aspect hémato qui va aussi en conjugaison avec l'aspect oncologie. Oui. On se demandait alors, dans votre pratique, quelle proportion est-ce que les deux prennent? Puis aussi, est-ce qu'au Québec, il y a des médecins qui se spécialisent seulement en oncologie versus seulement en hématologie?
Donc, la réponse est oui à toutes ces questions-là. Alors, on a une... Donc, c'est sûr que dans des centres académiques, il y a une spécialisation très, très précise. Puis, on peut se diviser vers un focus très spécifique. Donc, les maladies myéloïdes, les maladies lymphoïdes, là, pour juste revenir à vos APP, puis la schéma des hématopoèses que vous avez fait horreur avec, mais qui revient constamment. Donc, chacun de ces branches-là, chacun de ces dessins-là, tu peux être spécialiste de ça. Il y a aussi, en hématologie, si tu ne veux pas avoir de contact avec des patients, tu peux aussi avoir des aspects de ta carrière qui sont beaucoup plus centrés dans le laboratoire. On n'a pas parlé beaucoup de la médecine transfusionnelle, mais ça, la médecine transfusionnelle, c'est un domaine. Il y a beaucoup dans la clinique, mais il y a beaucoup d'éléments laboratoires, gestion de risque, organisation d'inventaire, rappel de produits, tous ces éléments-là qui sont là. Et puis, on peut être spécialisé uniquement dans ça et avoir vraiment une pratique complètement laboratoire. Dans la communauté, généralement, les hématologues-oncologues vont avoir une beaucoup plus forte présence en tumeurs, en oncologie, que ce soit hématologie ou oncologie médicale. Il y a certaines places, un peu partout, que ce soit académique ou en communauté, où tu peux être oncologue médical pur ou hématologue pur. C'est plus rare qu'au Québec, dans la communauté, d'avoir juste une des deux spécialisations, mais c'est en train de se développer et il y a une masse critique d'hématologues et oncologues médicales maintenant que ça se fait de plus en plus. Je dirais, c'est plus probable, on voit des dernières années une vraie reconnaissance de l'oncologie. On est moins frustré. Il y a beaucoup plus de thérapies disponibles et les résultats sont nettement mieux. Dans les dernières 10 ans, on a vu beaucoup de progrès. Et donc, il y a plus de monde qui s'intéresse purement à l'oncologie. Je dirais en Amérique du Nord, c'est plus standard qu'on ne fait pas les deux. Et c'est vraiment unique au Québec où il y a une fusion de ces deux professions-là plus souvent. Comme j'ai dit, même si, par exemple, dans mon environnement au CHUM, qui est très académique, évidemment, je dirais sur la grande majorité, on a les doubles certifications. Par contre, dans les dernières années, les recrues, on en a une couple d'oncologues purs, puis on a un petit peu plus des hématologues purs. Et évidemment, c'est plus facile dans un environnement académique où on a une masse critique pour séparer les deux pour être capable de faire ça. Sur le côté communautaire, comme j'ai dit, c'est plus souvent, ça sera une prédominance d'oncologie médicale, mais qui comprend les tumeurs, les sites hématologiques qui sont oncologiques. Alors, c'est sûr qu'on ne sait pas d'avance toujours que le patient a un cancer hématologique versus une condition bénigne. Alors, ils vont participer à beaucoup de ça. Les conditions comme l'anémie ferriprive que j'ai parlé tout à l'heure, dans la grande majorité des hôpitaux communautaires, va être prise en charge par un interniste qui reste général et va faire la première ligne. Et s'il pense à une pathologie plus pointue, va par la suite demander l'hématologue-oncologue. Puis je dirais peut-être en communauté, c'est probablement 2/3 à 3/4 qui seraient oncologie médicale et peut-être plus le quart qui serait hémato. Mais à l'intérieur de l'oncologie médicale, il va avoir toutes les tumeurs hématologiques qui peuvent être traités par les deux. Okay. Pour la coagulation, comme j'ai dit, dépendamment de l'environnement, la médecine interne qui va avoir une sous-spécialisation vasculaire, c'est le fun au Québec. Là. Il y a vraiment des modèles complètement différents à différents sites. Et puis, donc, on peut un peu ajuster la carrière comme le monde veut. C'est sûr que dans des centres académiques, c'est beaucoup plus facile d'être très, 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 très pointu et d'être vraiment plus restreint à une site ou l'autre. Moi, par exemple, ma carrière, que je sais que vous allez poser des questions un petit peu plus tard, donc je vais vous dire tout de suite que je probablement, bien, si j'avais tout à catégoriser, je prends 20% administratif ou laboratoire. La chefferie, de peu importe comment tu le distingues, il y a des éléments qui sont là et c'est souvent du monde qui vont gérer des laboratoires. Le laboratoire de cytogénétique est un laboratoire relativement lourd et spécialisé. Alors, je passe en moyenne une demi-journée à une journée juste à faire ce laboratoire-là, ou en principe, je devrais. Ce n'est pas toujours possible de faire ça. Je dirais sur le reste de mon 80% du temps, probablement les 3/4 sont vraiment dédiés à l'hématologie très, très pure. Donc, à l'intérieur de ça, je vais faire la grande majorité, comme dans la majorité des places au Canada, c'est vraiment de l'hématologie oncologique. Je fais un peu de bénin, mais je ne sais pas d'avance. Tu sais, je vois des anémies qui vont devenir malignes. Souvent, on essaie de restreindre, mais je vois beaucoup d'anémies ferriprives. On ne sait pas d'avance. C'est probablement la pathologie la numéro un qu'on voit en hématologie, c'est des anémies ferriprives. Mais quand on est en consultation, évidemment, dans un centre comme la nôtre, on va avoir des consultations pour des cytopénies un peu partout qui peuvent être évidemment des greffés, comme ça peut être un alcoolique ou que ça peut être. On a vraiment les spécialités assez diverses ici au CHUM. Le 25% de mon temps, de mon 80% de temps clinique, ça serait plus en oncologie. Et de plus en plus, Puis pas mal partout, le Québec, on essaie de s'organiser en programme de lutte contre le cancer, un peu comme les modèles français, où on a des sites tumoraux. Et puis donc, chaque hémato-oncologue va être sur des sites spécifiques. Alors, moi, je suis sur le site hémato, puis c'est ma principale affiliation, mais je suis aussi sur le site surrénal, croyez-le ou croyez-le pas. Il y a un site surrénal, c'est juste au CHUM que tu peux avoir des spécialisations aussi spécifiques pour ça. Et donc, je vois des cancers de surrénal. Et je vois les phéochromocytomes qui peuvent être soit du glande surrénale ou les paragangliomes que vous avez sans doute oublié de vos anatomies. Mais le paragangliome, c'est le système parasympathique paravertébral qui peut devenir l'équivalent d'un phéochromocytome périphérique. Alors, moi, je suis le seul oncologue qui fait vraiment ça de façon spécifique. Parce que justement, j'avais un peu moins de temps, puis on pensait que c'était un très petit site. Mais finalement, en le faisant depuis plusieurs années, j'ai accumulé pas mal de patients, et puis on a vraiment une expertise là-dedans. Les grands sites, donc certains de mes collègues feront le cancer du sein, et ils vont faire le cancer ORL, par exemple, ou un autre va faire le cancer du sein et le digestif. Puis au CHUM, on a eu le luxe de diviser le digestif en haut et en bas. Alors, l'estomac, l'œsophage versus les intestins. Le pancréas, ça va plus souvent avec le haut, juste parce que les approches qu'on peut faire avec ça. Mais il y a des sites urologiques, il y a des sites pulmonaires, il y a le site cutané qui peuvent être des fois des lymphomes, mais plus souvent, évidemment, des myélomes. Il y a des sites endocriniennes autres, donc la thyroïde étant le plus fréquent. On a même un site de tumorale oculaire qui, donc, c'est vraiment, comme j'ai dit, dans des centres académiques, c'est plus focusé. Dans les centres d'oncologie communautaire, dites de niveau 1 et 2, donc les sites que je vous parle, c'est des sites niveau 3 ou niveau 4, dépendamment de la quantité de recherche qui se fait et qui est vue, si on est. Et donc, un niveau 3, ça serait une expertise régionale où tu vas recevoir la deuxième ligne des centres communautaires, qui, évidemment, les grands centres à travers le Québec vont faire ça. Donc, essentiellement, tous les CHU, Sacré-Cœur et Maisonneuve et Jewish sur le côté de McGill vont faire des choses, mais les autres centres oncologiques vont être plus de niveau 1 qui vont faire les choses plus fréquentes. Donc, les plus fréquents cancers, c'est les poumons, le sein, le prostate et les intestins. Le lymphome, c'est le cinquième cancer et donc ça peut être fait soit en hémato ou onco. Donc, tu vois rapidement que même si tu es en communautaire, tu vas voir des lymphomes et des cancers hématologiques là, qui sont assez fréquents. Donc, chaque personne va avoir un mix un peu différent. Si tu es en communauté, tu vas surtout avoir les cinq premiers cancers. Et puis, donc, ils vont être un centre d'oncologie certifié qui, évidemment, c'est un travail d'équipe. Et puis, donc, ça, c'est une autre caractéristique que j'ai pas manqué, que j'ai manqué de souligner. Il faut être capable de travailler avec nos collègues professionnels des autres ordres. Les infirmières, entre autres des infirmières pivots qui sont critiques pour les prises en charge et le soutien émotionnel de certains de nos patients. On travaille avec des physiothérapeutes, avec des nutritionnistes, avec des sexologues, avec des orthophonistes, avec des travailleurs sociaux. On a vraiment tout centre oncologique au Québec. Donc, si tu es hématologue ou oncologue médical, va être obligé de travailler avec ça et c'est critique parce que évidemment tous les patients ont ces besoins-là. Le fardeau d'avoir un cancer émotionnel, financier est significatif et puis évidemment on n'est pas expert dans ça, mais on a des experts avec nous qu'on peut facilement référer. Et donc, le médecin est un peu le chef d'orchestre dans cette équipe-là. Par contre, c'est vraiment un partenariat et on travaille vraiment avec tout le monde quand on est hématologue, oncologue.
Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, vous venez de parler des patients qui ont un pronostic sombre et aussi pour leur famille. À travers votre parcours, est-ce que vous avez eu un enseignement à propos de l'annonce des mauvaises nouvelles ou c'est vraiment vous qui avez développé votre propre approche ou comment on apprend ça?
Donc, effectivement, dans mon temps, on n'abordait ça vraiment pas. Il y avait des mentors qui étaient présents, que tu rencontrais puis que tu voyais faire les annonces. Je sais que c'était comment ça commençait des éléments clés comme ça, comment faire des entrevues avec des patients, les aspects médico-légaux de la médecine. On avait un cours à la fin de notre parcours d'études. D'externat, là, où on retournait pour faire ces éléments-là. Puis, il me semble qu'il y avait peut-être une demi-heure sur l'annonce du mauvais nouvelle qui était très théorique et pas très bien développée. Ça paraît pas, mais je suis un peu plus vieux que. Ben, peut-être ça paraît que je suis plus vieux que ça. Et ça fait plusieurs décennies que je suis en pratique. Je dirais pas combien, mais mon conventum de 25 ans a déjà passé qui m'a choqué et scandalisé un peu. Mais je m'en rappelle quand j'étais étudiant, puis je voyais les 25 ans revenir, et puis je disais, mon Dieu, 25 ans de pratique depuis ton diplôme, c'est impossiblement loin, ça, et finalement, c'est pas si loin que ça. Ça dit, donc, on n'avait pas autant ça, et puis je pense que vous avez eu la chance d'avoir ça un petit peu mieux. On parlait déjà dans le temps, il faut être dans un environnement propice à faire ça. Il faut pas faire ça sur une civière dans un corridor si possible. Et puis, il faut prendre le temps de faire ça. Et puis, juste de prendre le temps de faire ça et de s'asseoir. Puis, même aux salles d'urgence, ils ont toujours des salles d'examen. Puis, il faut dire, regarde, j'ai des mauvaises nouvelles à annoncer. Je veux sa salle d'attente-là, déplacer le patient-là. C'est un chiale, mais il faut créer une ambiance intime où on peut faire ça. C'est sûr que de résumer ce qui s'est passé, de parler dans le même langage que le patient, et puis évidemment, dépendamment comment qu'on approche les patients, mes patients, je vais toujours parler de qu'est-ce qu'on veut faire et c'est quoi les buts de notre traitement au départ. Alors évidemment, on veut toujours le but curatif et t'sais, n'ayez pas la mauvaise impression. Il y a beaucoup, beaucoup de patients en oncologie qui sont maintenant guéris. C'est sûr que l'oncologue médical va moins voir ce monde-là parce que c'est le chirurgien qui guérit les patients généralement. Par contre, il y a plusieurs sites tumoraux qu'on va guérir. On a quelques sites tumoraux où c'est pas guéri, mais c'est un contrôle tellement bon que ça devient une maladie chronique. Et puis, c'est un peu comme annoncer que quelqu'un qui a de la haute pression ou de la diabète, si tu prends soin de ça, on pourrait aller faire des longs, longs chemins avec ça. Mais si tu ne prends pas soin de ta diabète, là, tu vas avoir un survie qui est beaucoup plus réservé que. Des fois, quelqu'un avec certaines sortes de cancers. Donc, évidemment, en lymphome et en hématologie, on a plusieurs maladies qui sont curables. Alors, donc, on a souvent l'annonce de guérison. On a aussi l'approche qui est à visée palliative. Donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire à visée palliative? Ça veut dire traiter le patient pour prolonger leur survie, puis pas prolonger n'importe quelle survie, mais une qualité de vie pendant ce temps-là. Alors, c'est là où on doit nuancer notre discussion et prendre les valeurs du patient et les intégrer avec les traitements qui sont disponibles. On a des traitements qui sont plus rudes. Et ces traitements rudes vont peut-être donner une plus longue survie, mais au coût de la qualité de vie. On a des traitements qui sont beaucoup plus doux, mais on va peut-être aller moins loin avec ça. Et finalement, quand on parle de ces éléments-là, on parle aussi d'une focus sur la qualité de vie sans prolonger la vie. Donc, vraiment les soins de fin de vie qu'on parle. Et puis donc, si on a bien fait l'introduction du sujet à un patient, quand on arrive à cette discussion-là, on ne dit pas, et puis c'est la pire chose à dire, et puis c'est que souvent le patient va comprendre, et ils vont dire, malgré tes préparations, ils vont dire, tu veux dire qu'il n'y a plus rien à faire. Et ça, c'est faux. Alors, il n'y a pas de plus faux que dire ça. Même qu'on est en fin de soins de vie, c'est souvent ce qui est le plus important étape de nos traitements, où justement, on va mettre nos efforts, mais le but de notre traitement n'est pas la même. Quand c'est un but curatif, là, on s'en fout un peu de la qualité de vie, on va les aider à traverser ça. quand c'est les soins de fin de vie, c'est important d'avoir la qualité de vie. C'est notre premier focus, quitte à perdre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Alors, donc, c'est vraiment la façon qu'on présente ça. On peut avoir un verre moitié rempli, moitié plein, moitié vide. Tu vois, je suis toujours positif. Moi, je vois, ça, c'est une caractéristique des oncologues. Ils vont toujours voir le verre moitié rempli ou moitié plein. Là, tu sais, donc, on n'est pas capable de dire c'est moitié vide. C'est un peu notre nature. Il faut avoir cette vision-là. On sait, tu sais, puis tout le monde sait là, que quand on est né, il y a quelques certitudes dans la vie. Il va avoir un fin de vie, il va avoir des taxes au chemin, là, mais il y a quelques certitudes. Puis ça, on sait que, et tous les patients ne sont pas fous, ils savent. Ce que le patient veut savoir, c'est d'avoir quelqu'un avec qui il peut avoir une confiance et une honnêteté s'ils veulent. Qu'ils connaissent aussi, puis le patient a le droit de ne pas vouloir avoir ces informations-là, puis ça, c'est ce qui est le privilège de notre relation. On connaît nos patients, on sait qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, et puis on leur dit carrément au début, posez pas une question si vous ne voulez pas la vraie réponse, parce qu'on va vous donner la vraie réponse, parce qu'il y a du monde qui vous ont caché des choses ou qui ont mal expliqué ça, parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi les réponses à ces questions-là. Et puis nous, ça, c'est le privilège qu'on a. On sait c'est quoi. Et c'est un peu la raison que les patients s'accrochent toujours à nous et ils ne vont jamais accepter les conseils nécessairement de quelqu'un d'autre si leur médecin traitant n'était pas du même avis. Alors nous, comme hématologue-oncologue, on va souvent avoir dit « j'ai parlé avec votre médecin » et puis lui il est sur la même page que moi qui suggère ça. Sinon, le patient, tu sais, ils te font confiance, mais ils font surtout confiance au médecin qui les a aidés à traverser des étapes difficiles, qui était là, que les silences ne sont pas aussi difficiles avec ça. On a tendance à ne pas aimer les silences. Des fois, tu peux juste être là et tenir un main et tu n'es pas obligé de parler. Et puis, ce que le patient et surtout ce que j'ai vu, puis dans des fois, des conditions qui sont très difficiles, c'est qu'ils savent qu'on ne va pas les abandonner, puis que même si c'est des mauvaises nouvelles, on va être là, on va leur dire, puis on va dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ça et où on est rendu. C'est sûr que ça ne marche pas à 100%, mais il y a des façons de faire une annonce de mauvaises nouvelles pour aider le patient à cheminer, de bien expliquer où ils sont. C'est compliqué, c'est tout, mais il y a des bons modèles qui sont là, il y a des informations, il y a d'environnement. Vous avez un peu ça dans vos formations, mais c'est possible d'apprendre et de bien enseigner. Il y en a qui sont plus naturels avec ça que d'autres. C'est sûr que ça fait partie d'un hématologue-oncologue, mais il y a peu de zones dans la médecine que ça ne fait pas partie. Surtout la microbiologie, on a tendance à penser ben des antibiotiques guérissent tous, mais c'est pas vrai. On voit ça avec le coronavirus, on voyait ça avec le VIH avant ça, on voit ça avec... Tu sais, il y a des tragédies qu'on voit dans tous les domaines de médecine interne et même toutes les spécialités de médecine ont leurs mauvais patients qu'il faut être capable de faire ça. Donc, je suis d'accord que les facultés ont abordé ça. On a probablement plus de facilité parce que c'est plus dans notre quotidien en hématologie-oncologie, mais on n'a pas peur de... Donc, ça prend quelqu'un qui, comme j'ai dit, un peu optimiste, un peu lunettes roses, mais au même temps réaliste et capable de dire au moment donné que c'est le temps d'arrêter de foncer pour la prolongation puis c'est le temps de concentrer sur le bien-être.
Oui. Donc, vous avez comme un peu abordé justement votre approche puis les éléments importants dans le cas d'une annonce des mauvaises nouvelles. Puis d'après ce que je retiens, c'est vraiment de prendre le temps, de laisser comme aux patients de recevoir la nouvelle aussi, puis aussi de résumer un peu c'est quoi la situation et de présenter justement les différentes options thérapeutiques par la suite.
Et surtout qu'on les abandonne pas. Mm-hmm. Ce qui est surtout important pour le patient, c'est que ils ne perdent pas leur médecin, qu'on lève pas leurs mains d'eux, mais que notre but, c'est autre chose maintenant. Puis on va être là pour aider. Et si ce n'est pas nous, on a une équipe qui est spécialisée dans ça et qui va faire la relève naturelle, mais avec qui on a confiance. Parce que c'est surtout ça, le sens d'abandon du patient qu'il ne faut pas avoir. Quand on donne des mauvaises nouvelles, Puis à votre niveau, là, c'est sûr que vous n'allez pas avoir toutes les réponses. Puis c'est correct de ne pas avoir toutes les réponses. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Il faut être à l'aise de dire, j'ai c'est une très bonne question, je ne l'ai pas tout de suite. Mais ça aussi, ça se prépare une mauvaise annonce, d'avoir les réponses de qu'est-ce qui arrive après, comment qu'on va aborder ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement les soins de fin de vie. Est-ce qu'on, tu sais, et donc, il y a plusieurs éléments, puis. On passe à d'autres choses, puis il y a toujours, c'est surprenant, on pense toujours que le patient sera en mille morceaux à terre, et ça arrive, mais plus souvent que d'autres, ils vont se ramasser, puis ils vont, OK, bien là, qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait next? C'est quoi le next step? Et puis c'est vraiment ça qui est important, d'être un peu prêt pour ça, mais des fois, il y a des questions qui surprennent, et puis on va pas être prêt, puis être capable de gérer ces trajectoires-là qui sont atypiques aussi.
Puis vous aviez mentionné aussi comme deux fois que justement une des choses à pas faire, c'est de donner l'impression aux patients qu'on les abandonne. Et une autre question qu'on avait reçue, c'est est-ce qu'il y avait d'autres red flags dans la communication, d'autres choses à éviter dans l'annonce de mauvaises nouvelles?
Ben, c'est sûr que une des choses que le patient veut être un individu. Et donc, une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est de les dépersonnaliser. Donc, justement, une certaine partie des stratégies que je vous ai données de résumer, bon, vous savez, depuis 6 mois, vous avez perdu du poids, vous avez commencé à avoir mal il y a 3 mois, vous avez vu une masse commencer à apparaître. Et puis, donc on a évidemment. Vous avez vu votre médecin de famille qui a trouvé qu'effectivement cette masse n'était pas normale. Il a fait des prélèvements de sang. Nous, on a procédé à la biopsie et cette biopsie nous a montré ça. Donc, et puis vous êtes mal. T'sais, donc, il faut évidemment, comme j'ai dit, comprendre le patient, parler de leur langage. Les drapeaux rouges, c'est de tomber dans le langage médical. Et pas de vulgariser les informations. Le patient ne veut pas savoir qu'il y a un adénocarcinome myxoïde à péritonite, qui est une maladie avec une épidémiologie. Il veut savoir que vous avez un rare cancer qui a touché votre appendice et qui s'est malheureusement promené. Donc, il faut être capable de parler à leur niveau. Par contre, tu vas avoir dans vos carrières des médecins qui sont malades et eux autres, ils veulent l'entendre comme ça. Donc, il faut être capable de lire le patient et de savoir le langage qu'on va émettre. Une des choses qu'on voit par contre, c'est que les professionnels, il faut pas assumer non plus. Il faut aussi donner les mêmes crédits. La pire chose avec une infirmière, c'est de présumer qu'ils comprennent toute la médecine. Une infirmière en psychologie, en psychiatrie, va pas comprendre les mêmes choses qu'une infirmière d'obstétrique qui va pas comprendre la même chose qu'une infirmière en oncologie. Ils ont leur spécialisation et puis même, tu sais, puis comme un médecin de santé publique va pas comprendre nécessairement de l'oncologie. Alors oui, il faut utiliser le langage scientifique précis, mais en même temps, il faut qu'on s'ajuste à leur compréhension et leur connaissance, et même des très éduqués. Et puis, un médecin qui est avec son épouse, son enfant, est un papa ou un frère ou sœur. Et pas un médecin nécessairement. Et puis donc, il faut reconnaître ça. Et puis, ça, je dirais, c'est une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on présume trop de leur compréhension. On tombe dans un langage médical parce que c'est plus facile d'être professionnel quand on parle un langage. Il faut trouver le juste milieu pour vulgariser ça, tout en restant quelqu'un qui est une autorité sur le sujet, qui comprend que c'est pas à la légère qu'on parle ça, c'est pas quelqu'un qui a pas vu ça. Donc, c'est ça que le patient veut entendre et veut que tu comprends bien, que tu les considères comme personnes et puis tu leur poses des questions de retour pour être sûr qu'ils ont tout compris et souvent ils n'ont pas compris. Et puis, moi, une des choses que j'évite à dire, c'est que j'explique Je ne donne pas le nom cancer au début. Je vais parler d'un processus où les cellules vont se multiplier et quand ils se multiplient, ils vont des fois envahir des frontières, rentrer dans des vaisseaux sanguins et se promener ailleurs. Et puis, donc, on donne des médications qui vont essayer de freiner ça. Donc, je ne parle pas de chimiothérapie, je ne parle pas d'un cancer, je parle de ça avant d'introduire. Puis, souvent, je dis, on donne des médications qui ont des fois des noms qui font peur, qui empêchent la multiplication de cellules, que le système immune est capable de freiner. Puis des fois, on appelle ça par un nom qui fait peur, qu'on appelle la chimiothérapie. Et puis donc, la chimiothérapie, c'est 300 différentes médications. Ce n'est pas ce que vous avez vécu. Et puis, il faut comprendre aussi que tous les patients viennent à table avec différents vécus. Alors, ils ont peut-être vu leur frère ou leur père ou leur grand-père souffrir et tu sais, les traitements de quand j'ai commencé il y a 20 ans et maintenant ont tellement évolué, on a beaucoup plus de facilité à contrôler les symptômes qui font peur. Et le nombre de patients qui reviennent après leur premier cycle de chimiothérapie qui ont dit ben, finalement, ce n'était pas si pire que ça. Ben, non, c'est comme ça que maintenant, on a des outils, on a des médications, puis vous n'êtes pas obligé de rentrer à la maison et souffrir et de rester devant la toilette en train de vomir pendant 3 jours. Ça, c'est pas comme ça maintenant, généralement. On est généralement capable de contrôler des douleurs. On est généralement capable de contrôler toutes les nausées, les vomissements. On est généralement capable de gérer les symptômes fréquentes qui arrivent suivant les traitements.
Justement, on a parlé quand même beaucoup du côté du patient, comment est-ce qu'eux, ils peuvent vivre ça. Puis nous, on se demandait, même si vous semblez avoir conservé un optimisme, est-ce que parfois, faire face à ces pronostics plus graves, ça a un impact sur vous aussi, de manière émotionnelle?
Donc, c'est sûr que je ne serais pas humain s'il n'y en a pas qui me touchent. Puis ça évolue dans ta carrière, mais je sais, la formation qu'on a nous prépare pour ça, parce qu'on sait avec le premier contact, oups, ça va finir mal. Et puis, une des choses qui est souvent dans la littérature, c'est une guerre. Mais avec un guerre, il y a un gagnant, un perdant. Et alors, ce n'est pas vraiment ça. Puis, je n'ai pas trouvé la bonne recette. Je n'ai pas été là, mais je sais que certaines personnes qui sont capables d'articuler ça n'aiment pas la notion de ben, lutte contre ça, tu es plus fort. C'est pas vrai, c'est un processus physiologique et puis il ne faut pas rendre coupable le patient qui n'a pas les énergies. Donc, il faut leur dire. Donc, c'est un élément un peu difficile des fois. Mais évidemment, comme j'ai dit, je comprends que quand je rencontre certains patients, qu'on va les accompagner puis on va les aider à vivre à travers des épreuves qui sont les plus importantes. Là, comme vous savez, dans plusieurs études, que les divorces, les morts, donc les cancers sont parmi les choses qui sont les plus marquantes, les plus traumatisantes psychologiquement dans la vie. On sait qu'on les accompagne. Et puis, avec le recul, on sait qu'on a fait un bon travail puis on les a aidés à aller aussi loin qu'ils pouvaient avec la meilleure qualité de vie qui était possible. Et ce n'est pas un échec personnel que le patient meurt. On sait que quelqu'un peut vivre plus dans 2 ans que dans 80 ans. Et puis, donc, leur donner permission de vivre et d'adapter. Moi, je suis un softie, là, t'sais, donc quand je regarde dans l'équipe une de mes équipes sur Lunal, donc il y en a qui sont très stricts. Bon, la chimiothérapie, c'est à tous les 3 semaines, il faut faire ça, il faut éviter de manger ça, il faut faire ça. Moi, je ne suis pas aussi catégorique parce que je sais qu'ils ne vont pas traverser ça. Donc, on aime respecter, donc il faut savoir quand mettre les limites et dire, bien, là, tu as une noce ou un baptême, puis que c'est ça qui est le plus important de la vie, bien, regarde, on va réarranger de quelques jours pour que tu sois en forme pour faire ça. Alors, c'est ça l'élément aussi. Puis comme j'ai dit, d'avoir un patient, il faut connaître tes patients, il faut prendre les histoires sociales. Puis, tu sais, puis comme j'ai dit, ma première exposition à ça, avec quand j'étais externe, mon deuxième stage de 2 semaines, quand j'étais allé en onco médical, justement, cet oncologue-là a dit, montre-moi les photos de ta petite. Là. La prochaine patiente, c'est, ah, montre-moi. Puis il montrait spontanément les photos de la noce de sa fille. Alors, c'est tous des éléments, c'est quoi les priorités du patient et d'aider à se rendre là. Ça prend du temps, des fois, de prendre ces discussions-là. On ne le fait pas constamment, puis les patients n'ont pas besoin de tout nous dévoiler. Mais pour certains patients, tu vas vraiment t'intéresser à ce qui est important et puis de leur dire honnêtement, là, on fait ça, puis de leur permettre d'avoir le contrôle dans ça. Alors, vous êtes le boss. Moi, je suis votre guide à travers ça et je vais vous fournir les informations nécessaires. J'ai aussi beaucoup de plus d'expérience, donc je sais que ça, si tu vas franchir, ça va être une escalade là, qui est expert. Là. Donc, mettez des bons bottes parce que ça va être difficile d'aller là. Donc, c'est vraiment cet élément-là qui me protège de ces éléments difficiles. J'ai aussi, il faut prendre des pauses. Il ne faut pas vivre 100% de ta vie. Les hématologues, oncologues, c'est traditionnellement, à un certain moment, notre laboratoire est plafonné. Donc, si tu as déjà fait tout ton laboratoire, tu vas travailler à 1% des forfaits que tu fais. Et puis donc, traditionnellement, ils ont décidé qu'après 42 semaines, finalement, la grande majorité était. Donc, on prend 10 semaines de pause, que ce soit en congrès, que ce soit en vacances, etc. Donc, ça peut paraître beaucoup, là, mais c'est pas pris tout ensemble généralement. Là, c'est pris 2 semaines ou 3 semaines. Mais d'avoir ce ressourcement où on fait quelque chose ailleurs, où on fait quelque chose différent, nous permet de nous ressourcer. C'est sûr qu'on a des proches, des familles, et puis entre collègues, on se parle. Tu sais, quand on a un cas difficile, quand on se demande si on aurait pu faire mieux, on a des réseaux. Et c'est absolument essentiel d'avoir ces réseaux quand tu gères des choses difficiles comme ça. Mais contrairement à ce que vous pensez, là, on ne fait pas ça tous les jours. La grande majorité du temps, c'est une continuation. Et puis, malheureusement, on ne peut pas vous amener dans nos cliniques externes où on a tous nos survivants qui sont en rémission, qui vont bien. Vous voyez les pires des cas sur l'étage. Et si vous êtes inspiré par ça, déjà, vous devez considérer l'hémato-onco parce que ce qu'on fait à l'extérieur, c'est tellement plus plaisant que ce que vous avez vu aux salles d'urgence et aux 6 étages. Alors, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. T'sais, si moi je fais une annonce difficile par semaine, c'est probablement en moyenne. Il y a des semaines que je n'en fais pas, puis il y a des semaines que j'en fais 3, 4, 5. Là. Mais c'est sûr que quand je suis sur l'étage, je vais faire ça plus souvent, mais ce n'est pas toujours mes patients. Et puis donc, ça, c'est aussi un petit parti. Puis au Québec, notre association a vraiment enlever le modèle de pratique solo et tous les hématologues oncologues vont pratiquer en groupe et puis on ne favorise pas des nominations inférieures à 3. Et puis justement, ça facilite les choses parce que souvent, quand il y a un patient qui est à un mauvais moment, il peut avoir un de tes collègues qui fait le bad guy, qui va faire l'annonce mauvaise. Et puis là, tu viens, puis le good guy, puis tu dis, bien, il a raison. Là. Oui, mais il était brutal. Oui, mais tu sais, il ne voulait pas paraître brutal, mais il fallait qu'il vous donne ses informations. Puis des fois, pour des cas un peu plus difficiles, tu peux envoyer un collègue pour faire l'annonce ou tu ne les envoies même pas. C'est parce qu'on fait des rotations sur les étages. Et puis c'est là où probablement on fait le plus concentré de mauvaises annonces. Et puis, ce n'est pas toujours les patients qui nous tiennent à cœur. Des fois, nos collègues vont nous appeler pour aller aider le patient à cheminer parce que c'est évident qu'ils sont rendus là. Puis, comme j'ai dit, ils ne vont pas le croire tant que leur médecin traitant ne leur a pas dit. Et des fois, malgré qu'on leur dit, il y a du monde qui vont simplement refuser. Le déni existe encore. Et puis, il faut prendre ces patients-là et les aider dans la mesure qu'ils nous laissent les aider. Mais il y a malheureusement du monde qui vont mourir sans jamais accepter qu'ils vont mourir. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Heureusement, on n'a pas des morts tous les... Tu sais, moi, mes enfants, je suis transparent avec eux, là, puis là, ils savent quand je rentre à la maison, puis on dit « Comment était ta journée? »« Oh, c'était long, là, j'avais ça, ça, ça. » Et puis, ils me connaissent assez pour me demander « Ben, est-ce que quelqu'un est mort? » Puis, j'ai dit « Non. » Ben, it's a good day then. Tu sais, donc, mes enfants me répondent ça. Et mes enfants sont plus jeunes là, maintenant, mais mes enfants me répondent ça. Et puis, j'ai des semaines que c'est un good semaine, là, que j'ai zéro mort et puis que j'ai fait du bien, j'ai réorienté des traitements, on a passé à d'autres lignes. Oui, on approche des fois là-dessus, mais l'hémato-onco, c'est pas aussi sombre que la grande majorité pense avant ça. Et puis, tu sais, on reçoit beaucoup de crédit. Mais honnêtement, des fois c'est mérité, mais des fois c'est exagéré. Parce que oui, on fait ces annonces-là, mais c'est vraiment pas notre quotidien de faire ces mauvaises annonces-là. Un patient, on va souvent suivre, tu sais, en hématologie, là, les cancers que je fais, là, j'ai plusieurs 20 ans, 25 ans de suivi que je fais avec eux. Ce n'est pas nécessairement des maladies, ils sont néoplasiques, mais ils ne vont pas nécessairement mourir rapidement. Ils vont souvent avoir des périodes de rémission, des récidives et d'autres rémissions. Alors, il y en a qui sont comme ça. Les tumeurs solides étaient plus dans cette optique-là initialement, mais on est rendu maintenant où même les tumeurs solides, tu sais, les cancers de poumons avancés, si tu vivais 6 à 9 mois, c'était quelque chose. Là, avec les nouvelles thérapies, en comprenant un petit peu plus le système immune et certaines de la génétique qu'on a là, on a des survies de 50 % à 5 ans dans certaines de ces pathologies-là, des choses qu'on ne comprenait pas. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de vous autres, parce qu'on guérit, on prolonge beaucoup plus, on rend des maladies chroniques. Et puis donc, c'est vraiment une spécialité qu'il faut oublier que c'est vraiment tout sournois. C'est une partie de ce qu'on fait et c'est important. Et il faut être à l'aise à faire ça, mais ce n'est pas la majorité de notre travail.
Donc, en fait, si j'ai bien compris, vous, pour vous détacher entre votre vie professionnelle et personnelle, vous vous dites que vous avez fait de votre mieux, vous avez fait les meilleurs traitements. Et à la fin de la journée, tant que vous avez fait de votre mieux, c'est ça qui vous rend émotionnellement.
Donc, dans mon bureau, j'ai un tiroir avec des cartes de remerciement de les familles. Les journées qui sont plus tough, là, des fois, si, puis j'ai pas eu besoin souvent de ça, mais quand je suis un peu plus morose, là, je vais regarder dans ce tiroir, là, je vais sortir, puis des patients qui ont apprécié la relation qu'on avait avec leurs patients, l'honnêteté qu'on avait avec ça, l'intérêt dans leur vie et leurs aspirations, il y a plein de monde qui nous remercie constamment. Tu as juste à lire les nécrologies dans le papier, puis tu vas voir 1 sur 4 ou 5 qui va avoir remerciement à tel docteur, telle équipe, tel hôpital. Ils sont appréciatifs que ce qu'on fait, la famille et le patient. Et on a souvent cette reconnaissance-là. Et ça, ça va loin pour remonter s'il y a des journées ou des semaines qui sont un peu plus tough.
Ouais, c'est sûr que ça doit être vraiment gratifiant de voir tous ces messages.
Oui, puis on peut aller chercher ça, mais il me semble de guérir un pneumonie, ça nous donne un peu moins de ces lettres-là.
Oui. On va passer, on avait parlé un peu plus tôt comme de vos intérêts en recherche. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus de vos axes de recherche et ce qui vous intéresse au niveau de la recherche?
Donc, c'est sûr que ça, c'est, la partie de ma carrière qui n'est pas aussi rayonnante que j'aurais voulu. Évidemment, quand tu commences, tu as envie de faire tout et tu ne peux pas faire. Et puis, moi, je suis dévié un peu plus vers l'administration. Et comme chef, là, je fais d'autres tâches qui grugent certaines le temps libre. Je participais surtout avec la recherche clinique. La cytogénétique, c'est pas mal fondamental, là. Donc, c'est l'analyse des chromosomes dans les cancers. Et puis, évidemment, avec la la moelle osseuse. Et en hématologie, on va regarder les chromosomes qui nous donnent beaucoup d'informations sur le devenir du patient qu'on va analyser. Alors, ça, c'est pas de la recherche, c'est de l'application clinique de gérer un laboratoire. La recherche clinique que je fais, c'est que, évidemment, c'est que je vais prendre des nouveaux molécules que les compagnies pharmaceutiques produisent maintenant de plus en plus régulièrement. Une fois qu'on a compris une mécanique d'action pathologique qui est influent dans une pathologie, on va essayer d'avoir un inhibiteur qui est plus spécifique, plus ciblé. Des traitements ciblés, c'est ce qui a changé le devenir de tellement de patients. Alors, la recherche principale que moi je fais, c'est de la recherche clinique où justement je vais être sollicité par une compagnie pharmaceutique ou un organisme national qui est en train de tester une nouvelle médication. On est chanceux au CHUM parce qu'on a tous les niveaux de développement de cette médication-là, du phase 1 où on va commencer les premières expériences en humain pour comprendre est-ce que c'est toxique, c'est comment qu'on donne cette médication-là, quel effet qui pourrait arriver. On fait les études de phase 2 où on pense avoir un signal que ça pourrait être particulièrement intéressant dans une pathologie. Et on a des études de phase 3 où on prend le vieux standard de traitement puis on ajoute un nouveau médication ou une nouvelle façon de donner les médications et puis on les teste dans un groupe de personnes généralement à plusieurs sites. Alors, malheureusement, avec mon temps, c'est surtout la phase 3 que je fais. Je fais des phases 2, exceptionnellement que j'ai participé dans des phases 1, puis plus que j'avance, moins que j'ai tant de ça, parce qu'évidemment, quand tu donnes des nouveaux médications, il faut être très, très, très présent pour être capable d'identifier des drapeaux rouges, justement, d'un problème qui pourrait arriver. Évidemment, je collabore avec la revision de nos cas. On essaye, puis les centres d'oncologie ont le mandat de garder des dossiers, puis on s'est doté de certains outils pour être capable de donner un petit peu plus d'informations pour reviser qu'est-ce qui se passe avec nos patients, d'être sûr qu'on fait aussi bien que qui est décrit dans la littérature et puis peut-être de voir si on fait mieux et comment et pourquoi. Alors, donc, les revisions, donc la recherche sur le devenir ou de répondre à certaines questions peut être présent et puis donc je vais participer dans ça. Évidemment, si on a un cas particulièrement unique avec un résultat ou des trouvailles inhabituelles, donc la recherche de publier des choses rares. Donc, je vais faire ça souvent avec des étudiants, des résidents qui sont intéressés. Puis, on a un cas, un case report. C'est un peu de la recherche. C'est pas tout à fait la recherche fondamentale dans un laboratoire où on va cibler des mécaniques biologiques ou de voir l'action d'une certaine médication. Donc, je me focus plus sur la dernière partie dans la recherche, mais toutes ces différentes étapes de développement de nouvelles thérapies. Et puis, ce qui est le fun, c'est que, on l'a vu un peu avec le coronavirus, une collaboration, puis des fois, je dirais que le meilleur coup de pouce qu'on a eu en hémato-onco pour le développement, c'était la crise du VIH. Alors, toute la recherche qui était faite comme ça a fait en sorte qu'on comprend mieux le système immune. Et en comprenant mieux le système immune, on l'a importé en hémato-onco, puis on a commencé à comprendre des choses, puis d'essayer de développer des choses pour rechanger ça. Et puis, tu sais, ce qu'on découvre avec nos nouveaux médications, c'est que j'ai un néphrologue qui dit toujours, avec vos nouveaux produits, ça nous fascine parce que vous donnez ça, puis il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec les reins, puis on découvre qu'il y a des protéines sur les reins qu'on ne savait pas existaient, puis que si on donne votre poison, vous faites quelque chose aux reins. Puis, donc, ce qui est le fun avec la recherche moderne, là, c'est que c'est tellement fertilisé, croisé. Là, t'sais, on voit des impacts, on ne sait jamais où les impacts vont avoir lieu. Comme j'ai dit, la recherche clinique est est très important, des fois un peu moins valorisé que la recherche fondamentale, mais c'est sûr que les cliniciens-chercheurs qui ont vraiment les pieds dans les deux milieux, qui sont capables d'aller comprendre d'aller au spécifique que certaines des PhD vont faire est super important dans notre domaine et il y a encore des millions de possibilités de nouveaux combinaisons, de nouvelles rationnelles pour combiner différentes choses. T'sais, actuellement, notre défi, c'est que le rythme de compréhension de la génétique avec les mutations est en train de dépasser nos capacités d'analyse et puis c'est tout un nouveau volet d'intelligence artificielle. Et quelqu'un qui est bien formé, là, donc je sais que Google est en train de créer une classe de médecins qui sont formés en informatique parce que d'être capable de prendre les données brutes parce qu'avec la séquenciation, le séquençage Next Generation, on est en train d'aller chercher le génome complet des personnes. Puis il y a beaucoup de bruit de fond là-dedans, mais il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de ça. Et puis, on est constamment en train d'apprendre. En hématologie, on était chanceux. Il y a quelques changements génétiques qui étaient vraiment l'effet fondateur qui nous a donné une piste, un cible. Si on bloque ça, ça fonctionne. En tumeur solide, c'est un peu plus sournois. Et puis, on voyait beaucoup, beaucoup de changements. Puis, initialement, on croyait, c'est assez hallucinant. Dans les années 70, on ne comprenait pas que l'ADN est important. C'est fou, raide. Mais les gènes et tout ça, là, c'était un peu des lubies des chercheurs dans les années 70. Et c'est vraiment dans les années 80 et 90 où les outils de biologie moléculaire qu'on commençait à se raffiner, puis que c'était facile. Tu sais, tu peux mettre quelque chose sur l'appareil, puis le lendemain matin, revenir avec une nouvelle gène qui est identifiée, là, à une nouvelle mutation qui n'a jamais été décrite, mais qui, selon les connaissances, va faire ça sur ton protéine, qui pourrait faire ça, qui va faire ça. C'est hallucinant ce qu'on est capable de comprendre. Et c'est vraiment, je pense, la prochaine vague, ça va être vraiment plus de prendre des éléments cliniques fondamentaux et tout compiler ça ensemble pour nous donner la médecine ciblée ou adaptée. Il y a plusieurs façons de dire ça dans nos jours, là, mais une médecine personnalisée, qui est probablement le mot qui est utilisé le plus souvent, est vraiment à notre portée, puis ça va nous prendre une génération de chercheurs qui sont capables de prendre toute cette vaste quantité d'informations et de le traduire à un individuel de façon humaine. Et ça restera toujours le défi. Un robot ne va jamais être capable de faire une mauvaise annonce, de tenir la main puis d'aider le patient à choisir donc un pourcentage X et un pourcentage... C'est quand même assez surprenant, puis il faut rester humble dans ça. Il y a des décisions qui semblent être évidentes pour la grande majorité du monde. Et si ce n'est pas la même priorité, la même façon de penser, le patient va prendre une décision minoritaire que 99% des patients vont accepter une chimiothérapie, mais le dernier va dire non pour ça, ça, ça et ça. Puis comprendre cette raisonnement-là et de trouver une approche de rechange pour cette personne-là, des fois, elle va rester la partie qu'on fait bien comme médecin.
Merci pour la réponse, oui. Puis d'avoir fait le lien, le parallèle entre les avancées technologiques puis l'impact que ça peut avoir sur la recherche. Puis d'avoir mentionné justement vers la fin que parfois l'addition de certains patients vous surprend. On se demandait aussi, est-ce que vous avez une expérience de travail qui vous a particulièrement marqué, que vous voudriez nous partager?
Regarde, j'en ai tellement que ça confond, là. Évidemment, il y a des patients qui m'ont surpris en sautant, en m'embrassant, là, que, tu sais, qui n'ont jamais été émotionnels. Tu sais, donc, il y a tellement d'éléments. Mais c'est sûr que ce qui m'a marqué le plus dans ma carrière, c'est pendant mon fellowship avec maître de pensée, Dr. Janet Rowley, là, qui est une dame et qui m'a tellement inspiré. C'est une dame qui est en médecine avant que les femmes étaient en médecine, qui a élevé sa famille pendant les premières années que la majorité de nous sont en train de commencer notre pratique. Et puis, elle a resté avec une demi-journée de clinique qui a 50 ans est revenue une fois que ses enfants étaient placés puis qu'ils étaient envolés dans les études de l'université, qui a commencé à s'étudier les chromosomes, justement. Et puis, comment cette madame-là, que j'ai rencontrée quand elle était 78 ans et qui a continué à être productif jusqu'à son décès à 86 ans, qui avait renouvelé ses bourses du NCI R01, qui était pour plusieurs millions de dollars à 85 ans, qui se sentait un peu coupable de voler l'argent des jeunes chercheurs, mais qui est une dame tellement généreuse qui, pour elle, le succès, c'était d'élever ses étudiants et ses fellows, puis de les laisser rayonner et courir avec la balle et de refléter sur elle comme ça. C'était ce qui m'a le plus inspiré dans ma carrière. Puis ça m'a le plus encouragé de se dire qu'à un moment donné, je vais lâcher toute l'administration et je vais peut-être concentrer sur la recherche. Et elle a gagné tous les prix à 60, 70 et 75 ans et elle n'avait pas commencé de la recherche proprement dit avant 55 ans. Quand elle a retourné, elle avait même pas un banc de travail, elle avait un coin d'un banc de travail et puis elle a fini par avoir le plancher complet à l'Université de Chicago, qui est un centre extraordinairement bien reconnu en hématologie et oncologie et à qui a eu tous les prix majeurs. Elle a eu le Lasker, qui est de 50% vont finir en prix Nobel. Elle ne pourra jamais avoir son prix Nobel parce qu'il ne le donne jamais posthume, mais que chaque année, on pensait que c'était son année pour l'avoir. C'était cette dame-là qui était simple, accueillante, qui savait parler de la science très, très, très pointue, dans un langage que n'importe qui peut comprendre. Si j'avais une inspiration, un moment qui m'a marqué, c'est vraiment mes années à Chicago avec elle, où j'ai vu des avancées et le potentiel de ce qu'on peut faire pour améliorer les patients et son humanisme. C'est sûr que j'ai eu une collection de patients qui sont très, très marquants. C'est les premiers patients avec qui tu es rendu à 5 ans, puis tu dis, là, on peut dire plus que rémission. On peut commencer à parler de guérison. Ça, c'est un feeling incroyablement. Tu sais, puis de dire au patient, tu sais, au début, là, que ben, à 2 ans, tu peux avoir peut-être un vin mousseux. À 3 ans, tu pourrais avoir un petit champagne, mais le grand cru, là, tu réserves pour 5 ans. Et puis, de 30 à 5 ans, puis d'avoir oublié que tu as dit ça quand tu étais à 5 ans, il y a 5 ans, puis qu'ils reviennent avec un grand cru, puis dit, regarde, on va partager ensemble, pense à moi, avec ton épouse. Ça, c'est incroyable. J'ai reçu un paquet qui venait de France, qui est un petit boîte brun là, qui est arrivé sur mon bureau. Puis je l'ai ouvert, puis il y avait des petits biscuits. Et puis là, il y avait une photo d'un échocardiogramme, d'un écho fœtal. Et puis là, la carte qui était « Docteur Olney, je ne sais pas si vous en souvenez de moi. Vous étiez là sur l'étage et vous m'avez dit… vous m'avez supporté cette journée-là et vous m'avez dit que, regarde, avec la maladie, oui, c'est l'air noir maintenant, mais ça va être mieux plus tard. Et vous m'avez dit, la façon de me remercier, c'est de m'envoyer une photo de ton enfant. Et voilà. » Et puis donc, c'était une photo 10 ans plus tard de sa grossesse, de cette patiente-là que j'ai aidée à traverser cette période sombre. Ça, c'était marquant. Alors, tu sais, j'en ai des millions d'histoires comme ça, là. J'ai des histoires extrêmement tristes aussi, mais c'est sûr que c'est ça qui est la carbure qu'on a besoin pour continuer à faire puis d'avoir l'enthousiasme qu'on a. C'est des choses comme ça qui sont complètement inattendues. De recevoir des biscuits puis une photo d'un fœtus, là, ça fait mon mois. Je marchais sur des nuages.
Définitivement, plein de moments marquants. Puis sinon, pour conclure, auriez-vous quelques conseils pour les étudiants qui sont intéressés par l'hémato-oncologie?
Soyez pas découragés. T'sais, je sais que la compétition semble féroce. Si vous êtes intéressés, soyez intéressés. Je trouve ça tellement difficile pour vous autres maintenant, là. Moi, j'ai par exprès, quand j'ai su que je voulais aller en hémato, j'ai fait d'autres rotations, pas en hémato-onco, pour justement parce que je savais que je ferais de l'hémato-onco pour le reste de mes jours. Puis vous ne pouvez pas vous permettre ça là, maintenant. Vous devez faire des liens en hémato, d'essayer de faire un peu de recherche. Mais ce n'est pas absolu, hein? Si vous êtes passionné par ça, on va le sentir, on va le voir. Je suis sur le comité d'admission en hémato, je suis sur le programme, ce n'était pas dans les titres, que c'est un autre chapeau que je porte. Je suis sur le comité de programme d'hémato adultes de l'Université de Montréal. On sent la passion du monde, on sent, tu sais, puis donc, faites ce que vous aimez, là. Si vous êtes intéressé par ça, ça va être facile. Vous êtes intéressé, vous allez lire, vous allez faire des stages et vous allez laisser des traces derrière vous. Soyez naturel. Faites pas ce que vous pensez qu'on veut voir. Faites ce que vous semble raisonnable. Si ce n'est pas à l'Université de Montréal, ça va peut-être être un autre centre que vous allez faire ça. Si c'est votre passion, vous allez réussir à le faire. Et puis, vivez-le, puis montrez cet enthousiasme. On le sent. Soyez, tu sais, puis on est tous humains. On a vu les humains, alors la grandeur et les faiblesses des humains. Avec l'hémato-onco, on voit tout le spectre de la population et de l'expérience humaine. Si vous êtes, vous pouvez pas faker ça, là. Si vous êtes intéressé, ça va se transmettre. Dites-nous que vous êtes intéressé. Cherchez des projets. Il y a plein de monde qui ont toujours des bonnes idées. Et puis, si vous courez avec ça, ça va t'aider. Mais soyez pas déçus si c'est pas la première porte qui s'ouvre à vous. Et restez enthousiaste avec ça.
Oui, mais je pense que ça fait le tour des questions qu'on avait. Mais merci beaucoup, Dr. Rémy, d'avoir pris le temps de nous parler, puis aussi d'avoir démystifié justement certaines conceptions à propos de l'hémato-onco.
Ben, j'espère que ça vous a servi à quelque chose, là. C'est un plaisir de vous faire ça. Je parle beaucoup tout le temps, là, donc c'est peut-être pour ça que vous avez eu mon nom, les externes qui ont subi mes cours à 6 heures. C'est du travail, mais il faut vraiment sentir qu'on fait du bien. Si on fait ça, le travail n'est pas si lourd que ça. Mais prenez le temps de vous ressourcer aussi parce que vous avez besoin de vous. Le nombre de patients qui nous dit « Prends soin de vous, on a besoin de vous. » J'ai plein de monde les journées que mes yeux sont un peu plus cernés parce que j'ai encore procrastiné puis fait la présentation à dernière minute. On fait tout ça. Mais c'est important de prendre soin de vous et d'aimer ce que vous voulez faire. C'est ça qui est le plus important, de trouver votre propre passion. On sait qu'une porte ferme, une autre s'ouvre, là, donc il faut vraiment croire ça. Foncez.
Mm-hmm. Puis peut-être qu'on aurait le plaisir de vous revoir dans certains stages.
Ben, ça serait un plaisir de vous voir. Et puis, on est au CHUM, on essaie d'accueillir le plus possible le monde qui sont intéressés. Et puis, chaque expérience va être unique et différente. C'est jamais le même étage, c'est jamais la même salle d'urgence, c'est jamais la même clinique externe. Donc, si ce n'était pas exactement ce que vous avez pensé la première fois, revenez une deuxième fois parce que ça pourrait être complètement différent.
Parfait, on va garder ça en tête.
Excellent.
Merci.
C'était vraiment inspirant
Parfait.
comme conférence.
Donc, j'espère que ça vous aide et puis bonne continuation, là. Je sais que ça paraît long, mais comme j'ai dit, là, vous allez faire toutes les étapes et vous allez vous placer, vous allez être heureux. Ça, c'est sûr. Là, on est dans une profession là, qui est vraiment le fun. Alors, parfait. Donc, bonne soirée et bonne fin de semaine.
Oui, à vous
Merci, à vous aussi.
Bonne soirée.
Excellent. Bye bye.